Mais c'est vrai que l'islam, par ailleurs, et ça c'est plutôt un bien, je dirais, eh bien, comme il y a cette cohésion de la communauté, que l'homme est pris en charge, eh bien, il n'est pas autonome, bien sûr. Il y a une force extraordinaire de l'Umma. Tout ça ne prépare pas l'islam à l'individualisme. L'individualisme, dans notre monde, c'est une déviation de la notion chrétienne de personne. C'est un mal, l'individualisme. Le christianisme respecte l'autonomie de la personne, mais l'homme, il existe aussi en relation avec les autres. On ne peut pas vivre totalement isolé de la société, ce n'est pas possible. Et voyez comment tant de gens sont seuls aujourd'hui, abandonnés, sans aucun secours, même parfois au sein des familles. Donc l'individualisme, c'est vraiment un très grand mal, et que dans le monde musulman, on ne connaît pas beaucoup, presque pas même. Et c'est un reproche que les musulmans nous font, notre individualisme. Parce que c'est vrai que l'Umma, elle prend en charge l'homme, et elle crée une solidarité, une fraternité très réelle, perceptible, entre les membres de l'Umma. Même si, par ailleurs, on se dispute, comme je vous l'ai dit, entre sunnites, chiites, alaouites, druzes, etc. Bon, ça. Alors, l'égalité entre les hommes, selon la vision musulmane, elle n'existe qu'entre les musulmans. En fait, l'islam instaure trois types d'inégalités. C'est pourquoi aussi il est difficile à des pays musulmans d'adhérer aux grandes déclarations des droits de l'homme. Donc il y a trois types d'inégalités. Tout ça prend son fondement dans ce verset coranique qui dit « Dieu en a élevé certains au-dessus des autres ». Dieu en a élevé certains au-dessus des autres. Sourate 4, verset 39. C'est la position de principe. Alors que selon la vision chrétienne, nous sommes tous frères. Alors les trois inégalités qui découlent de ce principe sont les suivantes. Le musulman est supérieur au non-musulman. Je vous ai dit, Dieu dit... vous êtes la meilleure communauté suscitée parmi les hommes. L'homme est supérieur à la femme et l'homme libre est supérieur à l'esclave. Je vais vous parler de la femme. Je vous cite le verset coranique concernant l'esclavage. Dieu a favorisé certains d'entre vous plus que d'autres dans la répartition de ses dons. Que ceux qui ont été favorisés ne reversent pas ce qui leur a été accordé à leurs esclaves au point que ceux-ci deviendraient leurs égaux. Donc il n'est pas permis à un esclave de devenir l'égal de son maître. Sourate 16, verset 71. L'esclavage donc, est d'une certaine manière reconnu dans le Coran. Au temps de Mahomet, on le pratiquait beaucoup. Lui-même a eu des esclaves, hommes et femmes. Alors aujourd'hui, il n'y a aucune autorité musulmane n'a aboli l'esclavage. Dans la pratique, heureusement, elle a largement disparu. Mais il y a quand même des pays musulmans où l'esclavage continue d'être pratiqué, où on continue donc de vendre et d'acheter des êtres humains, notamment au Mali, en Mauritanie et au Soudan. Voilà. Alors, maintenant, je vous parle de la question du rapport entre l'homme et la femme. Est-ce que c'est simplement une pratique ou bien est-ce qu'il y a un fondement scripturaire qui justifie ce que l'on peut voir, c'est-à-dire l'infériorité de la femme? Donc on se réfère au Coran. Voilà, le Coran dit d'abord qu'il y a une origine commune de l'homme et de la femme. Dieu parle comme ça. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et qui de celui-ci a créé son épouse et qui fit naître de leur union un grand nombre d'hommes et de femmes. Sourate 4, verset 1. Voilà, donc, origine commune de l'homme et de la femme. Mais par ailleurs, le Coran affirme et justifie la supériorité de l'homme sur la femme. Dans ces termes, les hommes sont supérieurs aux femmes à cause des qualités par lesquelles Dieu a élevé ceux-ci au-dessus de celles-là. Sourate 4, verset 34. Oui, donc là, on a Dieu qui décide de donner des qualités supérieures à l'homme, à la femme. Nous, nous savons que tout ce qui se passe dans les relations entre l'homme et la femme sur Terre, quand ça ne va pas, c'est la conséquence du péché originel. Au début, il n'en était pas ainsi. Du point de vue musulman, là, c'est Dieu qui a décidé. Vous savez, quand on considère le récit biblique de la création, il y a des choses absolument merveilleuses. Par exemple, lorsque Dieu place aux côtés de... Pardon.
C'est moi la référence que les hommes sont supérieurs aux femmes.
Oui, 4, verset 34. Oui, dans le récit de la création de la Genèse, dans la Bible, quand Dieu place la femme aux côtés de l'homme, jusque-là, il n'était pas satisfait, il n'avait pas son égal. Et là, il s'écrit, dans la Bible, non, c'est l'os de mes os, pardon, et la chair de ma chair, dans la Genèse. C'est vraiment très très beau. Ça montre cette égalité ontologique entre les deux. Alors, la préférence du Dieu du Coran pour les hommes, elle se manifeste déjà par la marginalisation des femmes dans le texte sacré de l'islam. Je vous ai dit hier que Marie est la seule femme dont le nom est mentionné dans le Coran. Les autres femmes n'ont pas leur nom, même s'il est question de femmes, bien sûr. Alors, concernant la foi et la religion, l'homme et la femme ont les mêmes devoirs et les mêmes obligations. Donc, pratiquer le culte avec les cinq piliers dont je vous ai que je vous ai décrit tout à l'heure. Je n'y reviens pas. Mais par ailleurs, il y a dans le Coran des versets qui inspirent une certaine méfiance vis-à-vis des femmes. C'est pourquoi la mixité est si mal vue dans les sociétés musulmanes. Vous vous en êtes rendu compte, je pense. L'islam a un côté ségrégatif. Le musulman ne se mélange pas en principe avec les non-musulmans, l'homme libre ne se mélange pas avec l'esclave et l'homme ne se mélange pas avec la femme. Vous savez que dans nos pays d'Europe maintenant, de plus en plus, des musulmans demandent des jours séparés pour l'accès à la piscine des femmes. Donc, même sur les lieux de loisirs, on ne se mélange pas. Dans les universités, c'est pareil, etc. Donc, pas de mixité. Et là, voilà, il y a un verset qui inspire de la méfiance envers les épouses. Dieu dit « Ô vous les croyants, vos épouses et vos enfants sont pour vous des ennemis, prenez garde. » Sourate 64, verset 14. Alors bien sûr, on peut faire de ce verset une lecture spirituelle, la tentation par exemple, bien sûr. Mais comme il n'y a pas de magistère authentique, rien n'empêche aussi un musulman de prendre ce verset à la lettre. Vous voyez qu'on est loin de l'enseignement de l'Évangile. Quand on considère que Jésus n'a eu absolument aucune méfiance envers les femmes et il les a fréquentées, il s'est plu en leur compagnie et dans une relation chaste et donc vraie avec les femmes qu'il a côtoyées. Pardon. Et c'est cette méfiance qui conduit a en principe l'obligation de la femme musulmane de porter le fameux voile islamique. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est Dieu qui le demande ou est-ce que ce sont les hommes? En fait, il y a dans le Coran, à la sourate 33, verset 59, l'obligation faite à la femme de dissimuler leurs atours, leur charme, si vous voulez. Mais le Coran, c'est une tenue pudique qui est donc demandée. Jusque-là, on a rien à dire. Mais le Coran, contrairement à une idée répandue, ne définit aucun modèle de vêtements féminins. Le Coran ne parle pas des cheveux. Il ne dit pas que la femme doit cacher ses cheveux. Ce sont les docteurs de la loi islamique, dans les différents pays concernés, qui ont élaborer des tenues vestimentaires spécifiques pour les femmes. C'est pourquoi on a un très grand éventail de tenues vestimentaires. Il y a les tenues les plus rigoristes qu'on connaît bien maintenant, le niqab. Le niqab, c'est la tenue ample, noire en principe, où même le visage est caché. Parfois, on laisse voir les yeux, mais pas toujours. Il y a aussi une autre tenue du même type, c'est la tenue, la burqa. Niqab, ça s'écrit N-I-Q-A-B, excusez-moi, niqab. La burqa, B-U-R-Q-A, c'est un vêtement qui est porté par les femmes en Afghanistan. Alors, ce n'est pas forcément noir, c'est même souvent gris ou bleu, mais le visage est dissimulé derrière un grillage en tissu, hein, bien sûr. Alors, ailleurs, il y a vraiment une très grande variété de costumes féminins, mais tous, en fait, consistent à cacher les cheveux. Et le vêtement le plus porté, le plus répandu dans les pays musulmans, enfin dans les sociétés musulmanes plutôt, donc y compris en Europe, c'est le foulard. Le foulard qui a un nom particulier, ça s'appelle, on l'appelle le hijab, H-I-D-J-A-B. C'est le foulard serré sur la tête qui cache en principe le cou, mais qui est souvent assorti d'une tenue ample, d'une robe ample, mais pas forcément. C'est assez étrange, vous voyez. Normalement, bon, le Coran demande aux femmes de cacher leur charme. Il ne décrit rien comme vêtement. Les docteurs de la loi ont développé ces traditions différentes. Alors, les cheveux, c'est prioritaire. Mais là où on peut s'interroger, c'est que, vous voyez, par exemple, je suis allée assez souvent en Égypte, et dans mon dernier voyage, c'était en juillet, un jour à midi, je passais devant une école. C'était à la sortie des classes. Il y avait là un groupe de jeunes filles qui avaient les cheveux cachés, complètement cachés, d'ailleurs d'une manière assez saillante, il faut dire, parce qu'elles font preuve de pas mal d'ingéniosité. L'essentiel, c'est de cacher les cheveux. Alors, elles ont inventé, c'est frappant en Égypte, une manière de se couvrir les cheveux inspirée par l'époque des pharaons. Oui, alors, avec des jolis tissus chamarrés, de plusieurs couleurs, etc., mais bien cachés, hein, le cou caché aussi. Et puis, ces jeunes filles, ces étudiantes, donc, par ailleurs, elles avaient des jeans moulants. Vous voyez, alors c'est curieux, cette obsession des cheveux, de la chevelure, ma foi. Je ne suis pas un homme, je n'ai pas de réponse, mais je suis frappée par ça. Alors, on a vu tout à l'heure que la femme a accès aux récompenses célestes, donc elle peut gagner le paradis. Je ne reviens pas là-dessus.